Welcome to Beyond the Speed of Spirit Chronicles.
Et moi. Voilà, bienvenue sur les chroniques de Beyond the Speed of Spirit, deuxième épisode, aussi appelé Beyond the Speed of Spirit Chronicles pour les anglophones. Nous sommes donc toujours là. Il y a un deuxième épisode à cette aventure qui semblait quand même bien mal partie la dernière fois, Benoît, parce que nous avons connu plein de mésaventures, il faut le dire.
Technique seulement. Au niveau des thématiques, on était inspiré.
On était plutôt bien. Je saluerai donc ton introduction que tu as géré solo de 7 minutes et 42 secondes.
Un vrai tunnel dans le jargon professionnel.
Très très bien. Je suis ravi qu'on se retrouve ce soir. On a eu des commentaires flatteurs de une personne qui est un ami à toi, je crois. Sébastien Grisel, on n'a pas parlé, c'est une petite fraîcheur parce qu'on n'a pas préparé. On a un peu préparé l'émission ce soir, c'est la folie.
C'est vrai.
Et en plus, on a une DJ qui devrait normalement s'occuper du son et du background et de la bande audio de l'émission. On en dira plus la prochaine fois parce qu'elle voulait pas qu'on la mette trop en avant. Anyway, donc il y a vraiment une équipe ce soir.
Ouais, non, mais ça y est.
Et ce Sébastien Grisel, qui est-il ?
J'en sais rien, je connais pas.
Mais non, le pilote, là, Michelin, Sébastien.
Sébastien Bonisseau.
Il s'appelle Grisel sur internet.
Ah bon, ça va pas être lui qui a dû intervenir.
Bon, écoute, parfait. En tout cas, gentil commentaire sur le fait, superbe commentaire sur le fait que c'était un peu enlevé, un peu voilà,
ah oui,
passionné. Au bon moment, on est passionné, c'est pas bon.
Non, mais ça doit être un véritable amateur. En fait, c'est pas un copain que j'ai payé.
Parfait. Écoute, il y a du progrès. Très très bien. Donc, petite introduction aujourd'hui. On va essayer d'avoir une colonne vertébrale, qu'on appelle ça un chemin de fer dans la presse traditionnelle.
Un conducteur.
Qui va passer par une petite introduction, ce qu'on vient de faire. On revenait sur l'émission de la dernière fois. Vous avez vu qu'on a une petite actualité quand même qu'on a essayé d'entretenir récemment. C'est-à-dire que certes, la revue, ce qu'on appelle la revue et la contre-revue n'ont pas une rythmie suffisante pour vous tenir en haleine.
Ça s'appelle un reproche,
un auto-reproche, voilà, qu'on consigne donc formellement. En revanche, des articles de fond qui sont sympas, et notamment celui de ce jour qui était vraiment très bien sur l'arrivée de la MP4 12C en terre
sur le nouveau continent américain.
C'était très beau,
avec
très poétique.
La première livraison, la première arrivée qui nous faisait rappeler... nous, les 30-40-naires, le générique d'un film culte des années 90 qui était Rain Man, avec Charlie Babbitt qui réceptionnait
Barry Levinson.
Exactement. Qui réceptionnait les 4 Lamborghini Countach et qui était, je trouve, un moment émouvant. Et des images qu'on a malheureusement, des images d'archives qu'on n'a pas retrouvées pour avant de mettre l'article en ligne, mais... Pareil, l'arrivée de Porsche aux États-Unis avec quelques superbes images de la Porsche 356 qui arrive sur quai exactement comme les McLaren et les Countach. Voilà, donc c'était le petit sujet de la journée. Pierre, je te laisse la parole. Si vous voulez commencer.
Mais écoute, mais c'était bien de revenir sur ces petits thèmes, dire qu'il y avait une actualité sur Beyond the Speed of Spirit, dire que les choses évoluaient quand même plutôt dans le bon sens. Et une actualité qu'on a essayé un petit peu de préparer cette fois-ci, là il y a un vrai fond, on a vraiment travaillé. Aujourd'hui, on abordera quand même le thème, ce qu'on avait plus ou moins évoqué la dernière fois, c'est-à-dire l'arrivée de la nouvelle 911, la 911 type 991, qui constitue quand même une petite révolution. Enfin, c'est un vrai moment. C'est-à-dire que chez Porsche, on se réinvente pas tous les jours. Et c'est vrai qu'on a beaucoup reproché à Porsche des séries limitées en pagaille qui empêchent la lisibilité de la gamme. Qu'il y avait effectivement à un moment donné, je sais plus, 35-40 modèles de Porsche entre les différentes combinaisons qui étaient absolument invraisemblables. GT3, GT3 RS, GT3 RS 4.0. Enfin, c'est vraiment déjà que les gens qui sont pas passionnés comprennent rien. Là, il y a vraiment rien à comprendre.
C'est
le petit défaut. Mais là, effectivement, la 911 qui change de génération, c'est pas arrivé souvent, c'est arrivé en 1996 et ça a quand même sauvé la marque. Et c'est arrivé au début de l'année, à la fin de l'année 2011, c'est arrivé avec la 991. Donc on revient très largement, c'est vraiment le thème de l'émission, de la soirée. Voilà, puisque c'est enregistré en soirée. Voilà, on va quand même faire un petit tour de l'actualité. Benoît, la Baby Aston V8, la Vantage, qui se refait une beauté. Ça doit être la troisième fois qu'Aston revoit la copie.
Oui, qui a un restyling invisible, je crois.
Écoute, ne me sers pas à la soupe parce que t'as pas besoin.
Je pense. Pas grand chose à se mettre sous la dent. De toute façon, on va commencer à voir là, on est à 15 jours du salon de Genève. Donc on va commencer à voir sur la toile, dans les magazines, l'arrivée des photos de presse de petits événements ou de gros événements, mais tu vas plus revenir dessus en détail, parce qu'il va y avoir de véritables événements sur des marques qu'on affectionne beaucoup chez Beyond Speed of Spirit. Mais chez Aston Martin, bah pas grand chose. Là, ça commence même à devenir, je trouve, un peu inquiétant.
Ouais, je suis un peu d'accord.
Hein, ça commence à devenir un peu inquiétant. Il y a eu, bon, bien sûr, un super événement, mais qui n'est plus un événement parce que ça date de cet été maintenant, la série limitée créée en partenariat avec Zagato.
Ouais.
Hein, et donc là on commence à voir les premiers modèles de route qui commencent à être livrés actuellement. La Porsche, la presse.
J'ai une question d'ailleurs, Benoît, à ce sujet. J'ai vu la photo, là, parce que là justement on avait les photos de presse qu'on a reçues, ça date du jour, hein,
oui, presque, tout à fait.
De la Vantage dans sa nouvelle version. Bon, effectivement, rien de nouveau. Je pense que quelqu'un qui n'est pas ultra aguerri ne verra pas de différence entre les deux modèles. Juste pour l'info, on a des petites modifications sur la boîte de vitesse, speed shift qui est améliorée, qui est en option sur la Vantage. Depuis d'évolution sur la Vantage S, enfin bref, pas grand chose, du frein qui est un petit peu majoré, mais ça veut pas dire grand chose. En revanche, on a des photos justement de la Zagato, et cette Zagato, faut être honnête, elle a une découpe arrière qui rappelle vraiment furieusement la GTR, d'ailleurs, je rappelle, une découpe derrière qui est incroyable, la bouche avant qui est spectaculaire,
ça
vaut par contre 400 000 livres, hein. Le petit bébé, pourquoi Benoît, tant de haine?
Bah parce que en fait c'est une spéculation, c'est un coup marketing comme ils font quelquefois, enfin de plus en plus souvent, que ce soit Aston Martin ou d'autres constructeurs, hein, comme Lamborghini, qui ont sorti quelquefois des modèles limités à 20 exemplaires. Ce qui est exactement le cas, et donc ils font des coups marketing pour faire un peu spéculer le collectionneur, qui il y en a de moins en moins dans nos contrées, c'est-à-dire en Europe et encore moins en France, mais c'est des modèles qui leur permet exactement de faire de l'image, et pour moi et créer l'événement quand ils n'ont pas d'événement à présenter, hein. La One 77 est sortie, il n'y a pas encore eu un seul essai dans la presse. Pourquoi ? Est-ce que la voiture est vraiment commercialisée ? Pas de news non plus. Donc voilà, donc ils ont sorti ça. On commence à lire un tout petit peu des retours et des analyses dans la presse, que ce soit sur le net ou dans la presse papier. Les avis sont vraiment divergents. Parce qu'il y a ils crient au loup pour la plupart, parce qu'ils trouvent qu'il y a un aileron très disgracieux qui n'était pas prévu à la base sur le modèle de route et qui a priori a été installé.
Moi,
je trouve pas ça horrible. C'est le petit côté radical de chez Zagato qui est décalé, que moi j'aime bien, mais il y a pas mal de critiques sur qui fait que ça casse la ligne, l'origité de la matière là du véhicule, quoi.
Donc il n'y a pas de vraie nouveauté chez Aston Martin depuis très longtemps.
Exactement.
On récapitule quand même pour les gens qui savent pas, parce que je pense que ce qu'on va essayer de faire maintenant, c'est de faire un peu de pédagogie.
Ouais,
il va falloir speeder comme tu dis. Il y a quand même, on fait juste un petit rappel là-dessus pour se faire comprendre, même si aujourd'hui on a décidé d'aller un petit peu plus vite. Vous avez l'Aston Martin DB9. On est là depuis combien de temps? Ça fait quoi, 10 ans qu'on a la DB9 qui est sur la scène, qui certes l'occupe avec beaucoup de talent, mais n'empêche, il y a effectivement la virage
qui vient d'être révélée, qui est censée être la remplaçante de la DB9, mais comme ils ont encore de la DB9 sur parc, qui font vivre les deux en même temps.
Le virage, en clair, c'est une DB9 avec des bas de caisse un peu améliorés.
Tout à fait. T'as eu un test une ligne exceptionnelle.
Exceptionnelle.
Non, mais vraiment au niveau de la ligne, mais c'est des beaux. Ils sont très très forts chez Aston Martin.
C'est une DB9 magnifiée. Il y a rien de nouveau sous le soleil.
Exactement.
La blague de James May qui compare quand même des voitures entre. Je me suis foutu de toi la semaine dernière avec les M1 de 400 à 440 chevaux. Là, on est encore plus dans le ridicule.
Ouais, tout à fait,
on a une gamme qui s'étend de 470 chevaux à 515 chevaux, et on arrive à intercaler un modèle.
Ouais,
et comme par hasard, elle est à peu près aussi performante qu'une DBS mélangée.
Donc t'avais raison, t'avais ça, t'as la virage, t'as la DBS qui est encore au catalogue.
On recycle pas mal, on fait du neuf avec du vieux quand même chez Aston en ce moment.
Ouais, tout à fait.
La série dommage, spéciale de DBS, on en a pas parlé, on en parle juste là pour exposer une situation. En fait, bref, Aston, ça manque de renouveau.
Ah ouais, là, ouais, si, ils ont sorti la signée.
Ok, bon voilà. Je pense que tout est dit. La Signette, c'est une. Pour ceux qui ne savent pas, parce que précisons quand même que c'est une IQ avec le cuir.
Du cuir d'Aston Martin DB9.
Il n'y a rien de nouveau sur le sol. La mécanique.
Il vaut 42 000 euros.
Il n'y a pas un cheval de plus.
Non, on ne se fout pas de la gueule du monde, mais
c'est pas loin.
Ils ont laissé le moteur dedans, mais voilà. Donc c'est inquiétant parce que c'est une belle marque qui pour moi était. Peut promettre de belles choses. peut se positionner en face de grandes marques comme Porsche, comme Audi ou comme Lamborghini, mais il va falloir qu'ils se réveillent rapidement ou que les investisseurs soient là derrière pour poursuivre ce président qui est le Rich Betts qui a envie de faire plein de choses, hein, quand il a créé quand même il a mis un moteur de la DBS le V12
c'est un grand moment.
C'est du génie.
C'est du grand moment.
C'est du grand moment. C'est super audacieux. Mais là, en ce moment, ça patine un peu.
Ça ferait presque un débat d'émission. Exactement. Finalement, fallait-il faire la 077 ou travailler sur une vraie innovation?
Non, mais la 077, faut pas. Allez, c'est super. C'est dommage qu'il n'y ait que 77 modèles, mais c'est quand même un modèle mythique. C'est magnifique. Par contre, maintenant, il va falloir faire des modèles entre guillemets généralistes. Il va falloir renouveler un tout petit peu la gamme rapidement, quoi. Donc okay. À suivre.
Top Gear, c'est pas le plus important, mais disons que Top Gear est partenaire du teasing cette semaine de la sortie d'une voiture très attendue, au sujet de laquelle Ferrari va communiquer le 29 février. On parle de celle qui va succéder à la 599 Fiorano. Elle a un nom, si on peut appeler ça un nom, c'est la F620 GT. Donc, pour ceux qui ne savent pas à quoi succède la F620 GT, elle va succéder à la Fiorano 599.
Et où,
la 599 HGTE, ce que tu veux, en tout cas, c'est la grande berline GT, coupé GT de chez Ferrari, moteur avant, c'est une longue histoire. Il y a eu la Daytona très longtemps avant, suivie par la Maranello, l'intervalle de la Ferrari Testarossa qui était une grosse berlinette, puisque moteur arrière. Et entre temps, donc la Maranello, 550, 575, la Fiorano et la F620 GT, c'est à elle qu'elle succède la.
Tout à fait.
Donc,
alors oui, c'est vrai, il y a ça. Et en ce moment, il y a pas mal de buzz là, et Luca Di Montezemolo et Ferrari savent vraiment y faire, parce que là, sur le net et dans la presse, là, on commence à voir pas mal d'images fleurir là depuis quelques jours sur l'arrivée imminente de leur nouveau modèle phare. Ce que j'ai lu aussi également, c'est qu'ils pourraient présenter un modèle encore plus événementiel que la 599. C'est carrément la nouvelle supercar et la remplaçante de l'Enzo pour le salon de Genève. Donc deux modèles présentés sur le salon de Genève seraient un énorme événement pour Ferrari, qui eux maintenant, il se passe pas une année où il y a un événement tous les deux salons, quoi, entre le salon de Détroit, de Los Angeles, de Genève, du Mondial et de Francfort. Tous les deux salons, il y a un véritable modèle original qui est révélé ou présenté, quoi.
Alors moi, je voudrais faire un point là-dessus, On va aller faire super rapide.
Vas-y, je t'écoute.
On va faire super rapide. La préparation de l'émission, pour une fois, parce qu'il y a une préparation, ce qu'on disait, m'a permis de voir plusieurs choses. C'était qu'effectivement, en spéculant sur la sortie de la F620 GT et de sa puissance, rappelons que la Fiorano, quand elle sort, elle explose les compteurs, elle déplace le tuteur vers le haut, puisqu'elle elle arrive avec 620 chevaux et un moteur d'Enzo, alors qu'elle succède à une voiture qui en fait 515. Il faut se rappeler qu'on est en 2006 quand elle arrive, et donc elle propose en fait un niveau de performance qui est vraiment, mais très au-delà de tout ce qu'on connaît, y compris la Murcielago, qui à l'époque n'est pas encore LP640, mais seulement 580. Donc, Ferrari, qu'est-ce qu'ils viennent de faire? Moi, j'observe deux choses. On a beaucoup stagné chez Ferrari, c'est-à-dire qu'on est passé de 230 à 270 à 300, 320 chevaux, 320 chevaux, puis 400 chevaux, puis on a attendu tout ça jusqu'en 2000. Ce que je viens de faire, c'est 70-2000. Entre 70 et 2000, enfin 77 et 2000, on passe de 230 chevaux à 400 chevaux. Puis après, on s'énerve. En 2004, on arrive avec on présente l'Enzo en 2002. Ensuite, on arrive avec la F430 en 2004, qui déboule quand même avec 485 chevaux. On arrive avec ensuite la 458 avec 570 chevaux. On propose ensuite la Fiorano avec 620 chevaux, enfin entre temps, voilà. Et là, on va arriver donc avec la F620, on va lâcher la puissance, 740 chevaux. Et un 0-200 en moins de 8 secondes et demie. Donc Ferrari, ils sont très énervés. Moi, ce sur quoi je voudrais revenir, c'est que la FF aussi arrive avec plus de 650 chevaux, 650 chevaux. Donc à chaque fois que Ferrari sort une voiture en ce moment, c'est très clair qu'ils ont compris quelque chose, c'est qu'ils ont. À une époque, ils se tenaient en retrait par rapport à ça. Et aujourd'hui, ils disent non, à la course à la puissance, on ne sera pas les derniers.
D'accord.
Et ça, ils rebelotent, cette fois-ci, 740 chevaux, c'est quand même très violent.
Sachant qu'en plus, leur deuxième cheval de bataille, c'est le cas de le dire pour Ferrari. Tu es cocasse, mon ami. Et voilà, c'est surtout la chasse au poids, quoi. Ils veulent faire maigrir un grand coup tout leur modèle parce que ils veulent vraiment maintenant alléger au maximum tous les éléments de carrosserie et de châssis. Et donc du coup, des voitures qui deviennent de plus en plus légères avec des moteurs de cette puissance, là, je sais pas où on va s'arrêter, quoi. Non, c'est
donc voilà, donc voilà pour la F620 GT
qui est un véritable événement pour
nous. Non, c'était bien, c'était une occasion de revenir aussi sur l'actualité de Ferrari, savoir où ils en étaient. On va essayer de faire plus vite maintenant sur l'actualité, ce qu'on a relevé, le non-événement, le restylage de l'Audi RS5. On vous en parle parce que c'est amusant de voir comme la presse va accorder quelques lignes dans son actualité au restylage de la RS5. Ouais. Et puis finalement, on va avoir 5 lignes aussi pour la sortie d'un nouveau modèle, ce qui fait qu'en fait finalement il faut vraiment lire entre les lignes pour arriver à saisir l'importance de l'actualité.
Ouais, tout à fait,
aujourd'hui tout se mélange, il y a une telle masse et une telle pléthore d'informations toute la journée qu'on peut en arriver à se perdre. Pour les petits entrefilés sur la Abarth 595 Tributo Maserati, qui est une version donc spéciale de la Fiat 500, assez comparable et cousine de la Tributo Ferrari, mais moi qui aime bien cracher sur Maserati, pour ceux qui lisent, je suis bien méchant avec Maserati, surtout avec la Gran Turismo que vraiment j'ai dans le nez. Parfois, j'adore d'ailleurs, c'est très bien, c'est pour ça qu'on y a. Voilà le débat. Hein, la démocratie, c'est-à-dire la conflagration canalisée dans un espace de débat. C'est-à-dire ne pas être d'accord et être d'accord pour ne pas être d'accord. C'est aussi ça, Beyond the Speed of Spirit. Donc, cette voiture, moi cette fois-ci, pour une fois, je dis. Bien joué. La signature est belle. Ouais, cette Abarth Maserati est très belle. Très joli choix de teint, très jolie sellerie. Une version cabriolet. On a moins l'impression que c'est Michael Schumacher qui va jouer un contest de ping-pong, hein, franchement, avec sa bagnole qui ressemble à rien. Donc bravo.
Et encore une petite astuce du marketing. Bon, c'est vrai que ça peut être drôle pour celui qui n'a pas les moyens de se payer une Ferrari ou une Maserati. Il s'achète une Fiat 500 pour s'y croire un peu. Bon, pourquoi pas, ça peut être drôle, mais vu les budgets engagés, il vaudrait mieux réfléchir peut-être éventuellement à acquérir peut-être en occasion un modèle vraiment sportif à la place. Mais bon, c'est vrai que marquer une Abarth à 180 chevaux, ça peut être drôle quand même. Mais bon. C'est pas ma tasse de thé personnellement, voilà. Bon.
Ouais. Bah moi,
je remarque chez Fiat, juste pour faire une petite aparté, excuse-moi, c'est que le succès de la Fiat 500 est tel que là maintenant, ils commencent à dévoiler des nouveaux modèles beaucoup moins sexy que la Fiat 500, comme une future Fiat Panda ou un grand modèle Fiat 500 avec exactement maintenant la face avant de la Fiat 500. Ils vont commencer à la dupliquer, redupliquer, redupliquer.
D'accord.
Sur tous les modèles, parce que là,
décliné à toutes les sauces.
Voilà, exactement. Ils surfent sur le succès de cette voiture qui a un profil assez mignon, mais attention à l'indigestion à un moment.
Ouais,
donc à suivre, on en reparlera.
Ok, on finit presque sans transition parce que c'est facile. La Gran Turismo S qui devient Gran Turismo Sport dans une version qui reprend pas mal des artifices esthétiques. Vous voyez, tout est connoté dans ce que je dis vis-à-vis de Maserati, parce que je dis artifice alors qu'il s'agit juste de subtilité esthétique de la Maserati Strada, la MC Strada, et qui donc est dévoilée en même temps en ce moment, qui sera dévoilée à Genève.
D'accord.
Voilà pour un petit peu l'actualité. Je pense pas qu'on ait oublié grand chose. Tu vois quelque chose d'autre, Benoît, aujourd'hui
non,
dans l'actualité?
Pas pour le moment, mais il va falloir rapidement qu'on organise une nouvelle émission, ne serait-ce que pour parler et spéculer sur toutes les nouveautés qui vont être révélées à Genève.
D'accord.
Parce que je pense qu'il va y avoir des belles choses. Vraiment choses. Même chez Renault, il y a des choses qui arrivent là, parce que je voulais évoquer le néo-rétro, mais il va y avoir tellement de choses qui vont arriver. Il y a la nouvelle Renault 5 qui devrait arriver et qui va faire, pour moi, j'ai vu 2-3 images, qui va faire vraiment un carton. Cette voiture là est lancée, comme c'est Renault est la seule marque qui n'a pas lancé de modèle concurrent à la Mini, à la Abarth, et toutes ces nouvelles voitures, et là ils vont révéler quelque chose qui va être assez intéressant. Donc je pense que ça va être le gros sujet de la prochaine émission
qu'on pourrait
toutes les révélations de Genève
qu'on pourrait, Benoît, programmer dès maintenant et dire voilà, on pourrait se faire une mid Geneva edition. On pourrait se la faire au milieu de Genève pour faire un petit point. On sera un petit peu dans l'actualité.
Exactement.
Super. Bon, voilà pour l'actualité, on en arrive donc au thème de la soirée. On a un peu déjà débordé, on est out of time. La 991, est-ce que la 911 qui arrive révolutionne la 911 encore? Alors, Benoît, la réponse à la question, Est-ce que la 911, est-ce que cette 911, cette 991, elle révolutionne le genre? Est-ce qu'elle va être à la hauteur de l'attente qu'elle a pu susciter?
Ben, je, pour ne pas avoir essayé encore le modèle, je pourrais pas l'affirmer, mais au dire des journalistes qui ont pu l'avoir entre les mains sur les premiers essais là, pour les lancements presse, apparemment ça a l'air d'une vraie réussite et d'un vrai succès déjà d'estime sur l'arrivée de cette voiture.
Très bien. Très bien, je me permets juste de couper parce que je voudrais qu'on va rentrer dans le détail et j'ai vraiment envie d'avoir tes réactions au fur et à mesure qu'on va inventorier le discours qu'ont pu avoir les journalistes vis-à-vis des essais qui ont déjà été réalisés. On en avait parlé la dernière fois, mais on n'avait pas fait une étude approfondie. Petite revue de détail, c'est-à-dire sur les éléments techniques de la 911. C'est vrai qu'on a tendance trop souvent à partir du principe que tout le monde est au courant de tout. Donc la 911, comme toujours, à chaque fois qu'on a un nouveau modèle chez Porsche, on commence par les modèles de base. Le modèle de base chez Porsche, c'est la Carrera. Mmh. C'est une chose maintenant acquise, ça paraît tout simple, hein, tu vois, de revenir sur ça, mais il faut le dire. Et la Carrera, c'est exactement ce qui s'était passé en 1996. Rappelons que la 996 était arrivée et que la 993 Turbo a persisté pendant un petit peu plus d'un an et demi, je crois, après l'arrivée de la 996. Je peux me tromper, mais je crois que c'était le cas. Là, c'est la même chose. On a deux modèles qui arrivent en même temps, qui sont la Carrera normale, sur une base de 3,4 litres, je crois, et une Carrera S sur une base de 3,8 litres. L'une qui évolue, c'est la modèle de base qui évolue de 340 à 345 chevaux, et l'autre qui passe de 385 à 400 chevaux. Mm-hmm. Hein, on est d'accord?
Oui, tout à fait. Ouais.
Voilà, on n'est pas en train de lire les chiffres parce que c'est pas très intéressant. On est à 350 et 400 chevaux, grosso modo. Avec une voix, vous allez les lire partout, c'est la chose de base. Les voix avant ont été largement augmentées. On a une voix avant qui augmente de 46 mm d'un côté, 52 mm de l'autre. Tout ça pour faire simple, si vous imaginez une 911, très simplement, ça ressemble à une grenouille et pour cause. On avait une grosse voix arrière, mmh, avec son moteur en porte-à-faux arrière, son flat 6 en porte-à-faux arrière, et puis une petite voix avant. Voilà, la 911 s'équilibre. On voit bien que c'est une voiture qui évolue, c'est l'impression qu'elle dégage quand on la voit physiquement, c'est-à-dire en le sensation d'une voiture qui est beaucoup moins, qui est toujours 911, mais moins typée, avec cette arrière voilà, de grenouille, de crapaud posé sur ses postérieurs. Tu me regardes avec un air bizarre parce que tu n'avais pas vu venir là-dessus. Les fondamentaux techniques, pour ne pas faire trop de phrases, le PDCC qui est mis au bout du jour, qu'on va trouver sur la version S, qui est un système de stabilisation en fait de la suspension en temps réel, qui fait qu'on va pas avoir de roulis. Le Porsche Torque Vectoring, qui est un système qui permet de gérer le couple sur les roues arrière en temps réel en fonction de l'ouverture de la courbe, la vitesse, etc. Et qui a déjà produit des effets assez exceptionnels. Pour être très clair, c'est pas juste un dispositif technique de plus. Mm-hmm. Ça marche, ça fonctionne. C'est ce qu'on a pu trouver notamment à un moment donné d'une façon différente sur une Ford RS 300, je crois. Voilà, c'est-à-dire, ça fait partie de ces dispositifs qui ont permis de faire passer plus de puissance sur les trains, et notamment sur le traction avant. Des choses très simples, la voiture évolue dans tous les sens, on a un moteur qui est encore optimisé, les consommations qui baissent.
Qui baissent encore, c'est ça qui est hallucinant.
Absolument hallucinant, les taux d'émission de CO2 qui baissent, bon, c'est pas vraiment une préoccupation majeure.
Ouais, quand même, maintenant, ça devient...
Ça devient pour tout le monde.
Pour toutes les entreprises, tous les constructeurs, ça devient une de leurs priorités.
Mais
quand même. Hein.
C'est clairement pas quelque chose que je vais vendre, en tout cas, à travers BSS, enfin, Beyond the Speed of Spirit. C'est pas du tout quelque chose que je vais mettre en avant.
C'est une belle performance technique. Hein.
Oui,
pour moi,
en tout cas,
je suis moins attaché que toi à la technologie et à la technicité des véhicules. Faut admettre que c'est quand même une belle prouesse d'avoir encore réussi à réduire les taux d'émission et les taux de consommation de la nouvelle 980.
On faisait cette petite revue de détails pour dire, et par opposition à ce qu'on a pu voir dans les informations, dans l'actualité, que finalement Porsche fait pas, c'est pas dans les annonces et dans la lecture des chiffres que la révolution se situe. Mmh. On a une Carrera S qui passe de 385 à 400 chevaux. Clairement, le cheval de bataille, encore le cheval de bataille, le propos de Porsche n'était pas de dire on va surenchérir sur ces modèles-là et la révolution va consister dans la puissance hallucinante dont vous allez disposer. C'est pas ça.
C'est vraiment pas ça qui l'équilibre de la voiture.
Exactement. Exactement. Alors donc on a essayé d'aller voir ce qu'avait dit la presse et pour savoir ce qu'il en était. On a été voir la presse que moi j'affectionne entre toutes, c'est-à-dire la presse anglaise.
Outre-Atlantique.
Exactement.
Outre-Manche.
Et donc, parce que c'est important, cette 911, c'est un changement d'époque, c'est une page qui se tourne, à l'instar de la 996 qui avait froissé l'audience historique du constructeur et pourtant bel et bien sauvé celui-ci.
Ah, ouais, tout à fait. Ouais.
Quelle ironie, quand même, hein, quelle ironie.
Qui est restée pour l'instant, je crois, encore la 911 la plus vendue. Hein.
Ah bah, de toute façon, vu son histoire, ça reste, ouais, voilà, fatalement, c'est très important. Bien que ce serait intéressant de rapprocher des chiffres de la 997 sortie en 2004.
Tout à fait. Ce serait intéressant à regarder pour plus tard, mais je crois que pour l'instant, la 993 reste encore imbattue sur ce point. À vérifier.
Oui, tout à fait. Invaincu, peut-être.
Je suis invaincu.
Invaincu. Non, alors, pardon. Donc, Car Magazine, que vous connaissez peut-être, le magazine anglais Car, on a... deux journalistes qui sont Jethro Bovington, qui a bossé d'ailleurs dans les colonnes de Evo aussi, donc des gens qu'on connaît bien, que des gens de qualité, dont on connaît le travail, et qui ont essayé la voiture, et ils ont pris comme parti de la confronter à des variations sur le même segment, c'est-à-dire un petit peu par le haut, un petit peu par le bas, voire beaucoup par le haut, c'est-à-dire ils l'ont confronté à l'Audi R8 V8, quand même, excusez du peu, c'est quand même la voiture qui a été lancée par Audi pour détrôner la 911, donc la symbolique est forte.
Tout à fait, il y a déjà longtemps. Hein.
Il y a déjà un petit bail, 2007, je crois qu'on est en 2006-2007, quoi.
2006. Elle a été révélée en 2006.
Révélée en 2006, on va dire qu'elle est sur le marché en 2007.
Mondiale en 2006, voilà. Tout à fait.
Elle est confrontée à la M3, dans sa version, donc la M3 actuelle, hein, 4 litres 2 V8 420 chevaux, donc une belle auto. Et elle est confrontée quand même à la GTR 2012, c'est-à-dire dans sa version 555 chevaux. Rappelons quand même que dans sa version 485, la dite automobile faisait manger sérieusement ses dents à la reine-mère, c'est-à-dire j'ai nommé 997 Turbo phase 1.
Tout à fait.
Donc vous imaginez un peu le bébé qu'elle a en face d'elle, la nouvelle 991. Rappelons aussi que la dernière fois qu'un test de cette nature avait été organisé par Car, la voiture qui était à la place de la 911, c'était une 997 Turbo. C'est pour ça que quand on parle de montée en gamme avec la 991, on n'est quand même pas très loin du compte. C'est une voiture qui fait mal et qui est là pour, qui se positionne un petit peu au-dessus dans la gamme ou dans les niveaux de gamme qu'elle ne le faisait par le passé. Donc qu'est-ce qu'ils disent ces chers amis dans Car? Alors voilà, bon, de toute façon on passe par les classiques, l'Audi R8 merveilleuse, formidable d'équilibre, bel équilibre avant-arrière, une super berlinette, on comprend pourquoi elle a fait trembler à Stuttgart. Super, bon ben c'est pas pour cette fois-ci. Les journalistes finissent par dire de la R8 que finalement la meilleure R8 aujourd'hui c'est une R8 d'occasion. Blam, etc. C'est réglé. La M3, bon ben écoutez, c'est super pour faire des donuts, se marrer, etc. Et on aime bien l'avoir dans le rétro avec son conducteur qui se donne du mal et qui se démène et qui a l'arrière qui est plus près de l'avant qu'autre chose. Donc voilà, pour être très clair, ça glisse, ça fait plaisir, ça donne le sourire, mais elle est quand même très clairement dans le troupeau de queue.
Maintenant, ouais.
Ouais, c'est clair. Elle est pas dans la ligue. Ils avancent en évoluant vers la GTR. Alors la GTR, forcément, elle n'est pas du tout dans le même groupe. Elle aurait dû figurer dans un groupe au-dessus. Très clair, elle est atomique. Partout où il y a la place pour accélérer.
Pour moi, je pense que, excuse-moi de t'interrompre deux petites secondes, la GTR a dû être le maître étalon pour les développeurs et les ingénieurs de chez Porsche lorsqu'ils ont tablé sur la...
Eh bien, excuse-moi de t'interrompre à mon tour. Je ne le pense pas une seconde.
D'accord.
Je pense que la GTR vit sur sa propre lane, vit dans son propre univers. Comme l'a dit, il n'y a pas très longtemps, on avait titré là-dessus. Elle vient d'une autre planète. Hein, ça commence à Steve Sutcliffe qui disait ça récemment. Non, je pense vraiment
pas. Tu penses qu'ils sont pas... que non, les ingénieurs que de chez Porsche ne non. sont pas basés je et pense... n'ont pas eu 2-3 GTR dans leur
laboratoire. Je pense que non, Benoît, et pour une bonne et simple raison, c'est que Porsche a quand même tiré la leçon d'une petite erreur qu'ils ont commise avec la 911 Turbo Phase 2, ça en version 500 chevaux PDK. Tout le monde, il y a pas mal de gens qui l'ont dit de façon assez claire, qui ont su lire dans cette voiture et qui ont dit la 911 Turbo Phase 2 perd de vue ce qu'est l'équilibre de la 911 Turbo, c'est-à-dire une voiture au long cours extrêmement efficace, une GT tout temps, tout terrain, sublime d'efficacité. Mais comme Porsche s'est senti agacé, meurtri par l'attaque de la GTR, ils ont essayé de surenchérir avec une 911 Turbo formidablement puissante qui produit des chiffres de performance exceptionnels, mais qui loupe le coche en étant avec des bruits de roulement complètement assassins, c'est-à-dire aussi peu confortable qu'une GT2. Ça a été très méchant sur la phase 2. Il faut être très clair, vous regardez les tests, vous allez voir que la 911 Turbo phase 2, c'est pas la même, le moteur n'est pas le même, il est moins communicatif, donc je pense que non. Et Porsche revient en arrière, c'est là que je veux en venir avec la 991. et c'est ce qui se passe dans le commentaire des personnes et des journalistes. Il parle de, Jethro Bovington, par exemple, parle d'un changement de paradigme. Il explique que la subtilité des liaisons au sol, la présence incroyablement magnifiée, est telle qu'elle éclipse les autres voitures qui sont là, que physiquement, elle est incroyablement... ces galbes ont gagné en élégance, qu'elle est plus belle, qu'elle est plus sophistiquée, qu'elle est plus grande. Mais plus que tout, à la fin du test, en relevant qu'elle est plus composée, plus économique, que ses talons vont plus loin, ses saveurs sont plus étendues, plus profondes, elle est plus économique, elle est plus confortable, et tout en étant, et tout cela en étant plus fine et plus compréhensible à la limite. Donc une voiture qui, dans son champ d'expression, arrive à la limite à communiquer plus de choses, à vivre en symbiose avec son pilote, et en lui permettant de faire des milliers de choses.
Qu'une GTR, que par rapport à la GTR.
Que même par rapport à une GTR. C'est-à-dire qu'au bout du compte, toute considération considérée, c'est-à-dire toute chose considérée, c'est-à-dire pas toute chose étant égale par ailleurs, ça veut dire qu'ils font pas... Il y a la GTR d'un côté, il y a la 991. Ils considèrent qu'elle vole la victoire à la GTR.
D'accord. Et donc c'est la première, c'est le premier modèle qui commence à...
Oui, ça veut dire que même en étant moins puissante que la GTR, moins efficace, oui, c'est clair que vous n'arriverez pas à suivre une GTR avec une 991, même soit-elle S, vous n'arriverez pas. Mais vous ne serez pas très loin et vous aurez un raffinement. Enfin, c'est ce que disait le journaliste, je ne suis pas en train de le posséder, je le dirai quand j'aurai essayé. Mais voilà, la démonstration, la composition, la palette est tellement étendue. La magie et le pilotage est tellement réjouissant, tellement nourrissant, qu'ils mettent la 911 devant la GTR. D'accord. Même si les deux ont 5 étoiles dans le test. D'accord. Fascinant. La meilleure voiture de sport que l'argent puisse acheter.
Meilleure voiture de sport que l'argent puisse acheter.
The best sports car money can buy. Je suis désolé, lisez-le en anglais, j'arrête pas de le dire à chaque fois. Lisez.
Non, mais c'est bien aussi en français. Hein.
Magazine. Non, c'est pas aussi bien en français. Non. En plus, ils disent que la victoire, elle la vole à l'épaisseur, ça, c'est l'épaisseur d'une hostie. Elle va te dire ça en français, t'as l'air d'un taré. Donc, alors que ça passe tout seul, ça passe tout seul en anglais.
D'accord. Bah, en tout cas, c'est élogieux de la part de Carr. Hein.
Tout à fait.
Mais voilà, je suis pas étonné. Je suis pas étonné des résultats, parce que quelques journalistes et presse française ont ressorti ce type d'impression. Hein, j'irai pas autant en détail que toi, mais la presse française est déjà vraiment dithyrambique sur ce nouveau modèle. Hein. Donc c'est pratiquement presque révolutionnaire. On la commence maintenant à remettre un petit peu tous les critères de tout ce qui est automobile sportif ou GT sportive à zéro, parce que c'est elle maintenant qui commence à reprendre les devants, je pense. Et Evo, qu'est-ce que nous dit Evo alors ?
Alors qu'est-ce que nous dit Evo ? Alors Et vous, allez, je fais un petit peu de suspense à deux balles, j'ai mon petit teaser, alors qu'on a 8 minutes, dans 8 minutes vous avez la réponse, même pas dans 8 minutes, dans 2 minutes. Et vous, rappelons-le, c'est le journal radical, c'est The Thrill of Driving, donc c'est le journal qui n'arrête pas, tous les 3 ans, chaque fois que Porsche sort une GT3 RS, et vous, forcément, l'élit à chaque fois,
quoi qu'il arrive.
Voiture de l'année, comme ça agace tout le monde, d'ailleurs ils ont le courage, les balls, de publier le courrier de leur lecteur qui leur dit que c'est vraiment des mange-merdes, etc., qu'il faudrait qu'ils se connectent au monde réel et qu'une deux places à 150 000 livres, parce que cette année ils ont élu la GT3 RS 4 litres 0, il dit revenez sur terre les gars, vous êtes quand même, c'est sympa les champignons, mais il faut quand même revenir un peu avec nous, on a des vies. Et ben moi, vous imaginez que quand Evo fait ça et que Porsche sort un discours qui est grosso modo frontalement, on sort une 911 qui est plus large, plus confortable, plus américaine, plus belle, plus ceci, plus cela, avec plus d'électronique embarquée, plus d'assistance à la conduite, plus de facilité, plus de technologie, plus de marketing. Vous imaginez qu'un type comme Harris qui arrive l'année dernière à coller une GT3 RS devant une 458 et cette année largement une GT3 RS 4.0 devant une Aventador qui n'est pas finaliste de l'Evo Coty of the Year cette année. Vous imaginez quand on lui sert cette caisse, la 991, on dit... Putain, ça va pas être, c'est pas le meilleur consommateur du recipe, de la recette. Et bien en fait, Harris, il arrive et il pousse le bouchon, il s'invite carrément, c'est aux États-Unis, c'est au moment où ils testent la 991, ils font les essais presse. Il invite une 997 phase 1 GT3 à un match. Il dit voilà, moi je vais tester la 991, mais je vais la tester, je veux une valeur étalon et je vais prendre pas n'importe quelle valeur étalon, je vais prendre une 997 GT3. Garçon 415 chevaux, 3 litres 6. Et Harris, il essaie cette 991 et immédiatement, il dit mais c'est incroyable, la présence, mais immédiatement ça le scotche, ça le perturbe, ça le transfigure, il est complètement sous le charme.
À ce point-là.
Ah oui, complètement. Bah, il arrive face à la 911 et il dit voilà, il ressent la montée en gamme. Il dit voilà, forcément elle est joliment construite. et tout de suite ce qu'il ressent c'est le feeling du châssis, complètement incroyable. D'accord. Ce fameux torque vectoring, le PDCC, l'équilibre de la voiture, cet élargissement des voies avant. Alors lui il le dit tout de suite, il dit communication du train avant absolument phénoménal, changement de direction, transfert de masse absolument incroyable, le moteur ultra rempli, la sonorité envoûtante, les bruits de roulement, les fameux bruits de roulement pour ceux qui ont conduit des Porsche avec des gros pneus, ouais. 911 turbo, 911 997S, etc. Vous entendez les bruits de roulement partout, super communication du train avant, mais par contre ça fait un bruit de pneus tout le temps. D'accord. Vous avez les pneus, ils sont dans la voiture et ça c'est un truc, et voilà, ben c'est fini, les pneus ils sont toujours là, on les entend mais ils sont plus envahissants.
Du coup, il a dû jeter sa GT3 RS 4 litres qu'il avait acheté ou quoi?
Il dit non, ça c'est pas celle-là, non, là c'est la
GT3 de base.
Et il dit deux choses, il dit si vous les portez vraiment à ébullition, à haute température, la GT3 va quand même continuer à montrer sa prévalence dans l'ère de l'hypersportivité, mais elle va la montrer à un tel degré. Il faudra aller tellement loin pour que ça se manifeste. Vous allez arriver à 99% du résultat. Pareto est notre ami. C'est-à-dire que là, pour le coup, avec 991, vous avez le son qui est envoûtant. Vous avez l'excellence de la voiture, l'efficacité extrême. Et quand la GT3 n'en peut plus, vous êtes toujours quand même QAQ, vous avez perdu 1 mètre au bout d'un kilomètre. C'est ça la différence. Et là, il le dit très bien. C'est-à-dire la capacité, la démonstration de la voiture, qui reste un super outil poussé par comparaison. Mais la démonstration est totale. La puissance du concept implacable. Il explique que la 991, parce qu'elle peut dessine n'importe où de belles arabesques noires, augure d'un avenir souriant.
Oui, ça va être fabuleux.
En plus, sa propension à faire des drifts, ce qui est quand même pas négligeable pour lui, fait que la voiture est capable de se plier à tous les caprices, toutes les envies, et que dans tous les univers, elle sera à l'aise. Elle sera à l'aise en ville, elle sera à l'aise sur des petites routes complètement chaotiques, sur des nationales, sur des autoroutes. C'est la capacité, la géométrie variable de l'avion 991 qui en fait une voiture extraordinaire.
Il est bien résumé, en tout cas c'est ça fait envie, super. Donc imagine un petit peu, ce n'est que la première génération, c'est les premiers modèles, la 991, ouais. La 991S qui sont en place. Donc lorsque les autres vont arriver, ça va être fabuleux. On commence déjà à voir, ils sont déjà en train de préparer la turbo qui devrait être révélée à mon avis pour septembre, ouais. pour le mondial à Paris. On devrait l'avoir à Paris et ça va être pour moi une voiture fabuleuse quoi.
Ah, moi j'aimerais beaucoup. Enfin, on sait que le calendrier maintenant Porsche,
c'est parti, la séquence 6 ans, 7 ans avec 40 versions comme ils ont fait
comme d'habitude. Non,
mais là, rien que la première, déjà rien que le premier modèle qui vient de sortir a déjà des super échos. Bah, bravo en tout cas, super analyse sur ces deux déjà sur ces deux magazines avec ces experts que sont Chris Harris. Et comment s'appelle l'autre?
Jethro Bovington et puis George Koch qui est un autre mais que. Enfin, faut pas le voir en photo, parce que sinon il est moins crédible. Non, c'est pour rire, mais il est. Non, c'est des foutus essayeurs. Et donc voilà, la 911, elle a l'air de vouloir, encore une fois, il faudra qu'on le confirme dans les faits en essayant. Mais ce que j'espère, puisque quand même. Petit salut d'ailleurs à monsieur Thomas Martinez qui nous écoute peut-être, qui est le directeur des ventes, enfin adjacent à la GTR chez Nissan Bordeaux. Qui d'ailleurs, soit dit en passant, petite note de bas de page, est la deuxième concession la plus vendeuse de GTR, le centre Nissan Sport,
en France ?
Non, en Europe.
Ah, en Europe ?
En Europe. On vend plus de GTR à Bordeaux que dans bien d'autres endroits dans le monde et en Europe, et donc ça fait quand même plaisir.
Ah oui, que ce soit chez nous.
Ce soit chez nous.
Bravo, pas mal.
Et donc, qui a eu la délicatesse hier de me faire essayer la GTR donc dans sa version 2012, c'est-à-dire 550 chevaux. Et justement avec un essai comme celui d'hier, je connaissais la version 2011 530 chevaux que j'avais conduite davantage, mais quand vous voyez ce que c'est qu'une GTR 550 chevaux dans sa dernière version qui est voiture, mais vraiment c'est all around, elle est bonne partout, elle est exceptionnelle, ouais, se dire qu'une 991 arrive à lui voler la vedette, c'est un sacré bel hommage.
Ah ouais, pas mal. Voilà. Et tu maintiens le fait que ça... Pour les ingénieurs de chez Porsche, ça n'a pas été leur maître étalon.
Non, je pense pas.
D'accord.
Je pense qu'au contraire, Porsche est revenu.
D'accord, d'accord.
C'est précisément ce qui se passe. Ce que dégage cette voiture, c'est l'idée. On a de la magie, on a de la communion entre le pilote et l'automobile, mais on l'a pas au prix justement de cette fameuse polyvalence et de ce charme que distille une Porsche.
D'accord.
Je vous dirai pas ce que m'a dit Monsieur Martinez d'ailleurs à cet égard, parce que comme il est vendeur chez Nissan, ce serait quand même lui faire un vilain en fondant le dos de révéler ce qu'il m'a dit dans le secret de l'alcôve, qui était la 900, qui était la Nissan GT-R. Mais
voilà, avec nos 15 000 auditeurs là, ce sera plus un secret.
On ne sait jamais, on va devenir célèbre et un jour il y aura des millions de personnes qui réécouteront les anciennes versions. Ils diront merde, ça peut poser des problèmes. Donc, en prévision de notre succès futur, je préfère garder ma bouche fermée.
Maintenant, je serais curieux d'essayer de voir le temps qu'elle va faire sur la boucle du Nürburgring.
Ah, mais on le sait déjà, cher ami.
Il y a déjà un temps officiel.
Ouais, c'est minimum 7,40 et c'est au mieux 7,34. C'est-à-dire que c'est totalement révolutionnaire. Pour être très très clair.
Tu parles de la 991 ?
Je parle de la 991, ouais.
Et c'est quoi le temps de référence de la GT-R ?
Pourquoi est-ce que Chris Harris a opposé la 991 à la GT3 d'après toi ?
Je sais pas.
Parce qu'elle a réalisé le même temps que la GT3 sur la boucle du Nürburgring. Ça veut dire qu'une voiture qui est capable, qui fait moins de 10 litres en normalisé.
Elle a repris.
Non mais il faut quand même se rendre compte, Benoît.
Elle a repris
moins,
son sceptre.
Moins de 10 litres au 100. Des émissions de CO2 qu'il expose même pas au super malus. Un confort intérieur, une capacité, une polyvalence invraisemblable et en plus un temps de fou furieux sur le ring. C'est ça, voilà, c'est ça la démonstration totale et implacable de la 911. Donc moi j'attends d'essayer pour être totalement convaincu, mais je dis déjà chapeau.
D'accord.
Voilà.
Bien, bah écoute, merci Pierre pour cette présentation et ce dossier hein, qui était très complet. Et puis écoute, bah, il me tarde d'entamer la troisième édition de ce Beyond Speed of Spirit The Chronicle que nous allons entamer dès la semaine prochaine d'ailleurs,
ouais,
pour parler déjà
pour être au cœur de l'actualité
de tout ce que va révéler le salon de Genève qui est fabuleux et plein de grosses nouveautés à la fois chez les généralistes que chez les constructeurs un petit peu exclusifs. Donc bah, nous vous donnons rendez-vous dans une semaine
hein,
pour cette nouvelle et prochaine émission et soyez nombreux à nous écouter désormais amis fidèles et abonnés.
Allez, à bientôt, bonne soirée.
Au revoir.